Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal des 10 d'Angers. Bonjour Alice.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le choc Dortmund-PSG, c'est ce soir. Première étape pour tenter de décrocher le ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Et les Parisiens sont prêts. À plus d'un mois des élections européennes, Jordan Bardella ne prend aucun risque. Pas de débat et un meeting annuel du 1er mai comme à la maison. Ce sera à Perpignan cette année. Et puis le rapport de l'éducation nationale ne relève aucun manquement de la part de l'établissement après l'agression de Samara à Montpellier le mois dernier.
C'est le grand soir pour le PSG.
Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Borussia Dortmund à 21h, attendu par plus de 80 000 supporters pour cette demi-finale aller de la Ligue des Champions. Il va falloir rester concentré face au mythique mur jaune des Allemands en jaune et noir. Mais les joueurs de Luis Enrique semblaient encore détendus hier à l'entraînement. J'aurais essayé.
Si la météo printanière n'était pas là pour nous rappeler que Paris s'apprête à jouer une demi-finale de Ligue des Champions, le fait de retrouver Dortmund à ce niveau de la compétition pourrait être trompeur. Mais le PSG n'a jamais été aussi près de rejouer une finale. Et pour Luis Enrique, l'entraîneur parisien, pas question de céder à la pression.
Je suis enchanté d'être dans cette situation. J'ai la chance de pouvoir profiter de ce genre de moment. D'autres arrivent à s'adapter. Cette pression est bénie. C'est toujours bien d'être en demi-finale de Ligue des Champions.
Cette première manche aura son importance, surtout quand on sait que le PSG n'a jamais réussi à s'imposer ici et que les Parisiens ont été tenus en échec en phase de poule en décembre dernier. Mais pour Gonçalo Ramos, depuis, Paris a progressé.
Nous sommes plus une équipe par rapport au précédent match. On a eu plus de temps pour travailler, nous nous connaissons bien et maintenant nous sommes une famille.
Même si le stade sera hostile, que les médias allemands promettent l'enfer au PSG, l'objectif est le même qu'à San Sébastien ou à Barcelone, la victoire.
Et pour l'occasion, soirée spéciale dès 18h sur RMC. À la télé, rendez-vous sur RMC Sport 1. De leur côté, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont neutralisés hier soir de partout. Tout se jouera donc à Madrid mercredi prochain.
6h32 sur RMC, c'est le 1er mai, jour de la fête du travail.
Comme chaque année, des rassemblements sont prévus partout en France, au moins 277 années. Et comme chaque année, le Rassemblement National organise son grand raout pour cette édition. Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella pose ses valises à Perpignan, une ville acquise ou presque, et ça tombe bien, Hélène Terzian, puisque l'objectif, c'est de maintenir l'avance du Rassemblement national aux européennes.
Il dit rien et il grimpe tous les jours.
Le constat d'Alain est cynique, mais quand Jordan Bardella refuse des débats, ne répond pas à la presse, ça fonctionne auprès de Rosaria, sympathisante du RN depuis des années, elle n'esquivera pas le meeting de son champion.
S'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Peut-être qu'il n'a pas envie qu'on retranscrive ce qu'il dit d'une mauvaise manière, pas celle que lui entend.
Mais si Jordan Bardella esquive les coups, pour Christine, électrice de gauche, la raison est ailleurs.
Je pense qu'il se protège beaucoup pour éviter les dérapages. Je ne sais pas si c'est une coquille vide, mais en tout cas, je ne suis pas sûre que le RN soit vraiment une coquille pleine.
En voulant nationaliser le débat, il en oublie le cœur de la campagne, regrette Christiane.
Il parle de tout sauf des européennes. Ils ne votent pas, ils ne sont pas dans les commissions, c'est pas sérieux.
Ce procès en incompétence, en dissimulation que le camp macroniste veut faire à Jordan Bardella, c'est loin des préoccupations des Français. Pour Louis Alliot, le maire RN de Perpignan.
On est dans l'écume des choses, les Français s'en foutent de toutes ces questions. Et ils veulent finir leur fin de mois, de l'emploi, de la sécurité. Tous les commentaires que je vois aujourd'hui à la campagne qui sont annexes, les gens n'écoutent plus.
3000 personnes viendront en tout cas écouter Jordan Bardella et Marine Le Pen.
C'est un rapport dont les conclusions étaient très attendues, celui des deux inspecteurs de l'éducation nationale qui ont enquêté sur l'affaire Samara, cette adolescente violemment agressée devant son collège de Montpellier il y a un mois. Dans ce dossier, 5 mineurs ont été mis en examen pour tentative d'homicide. Et le rapport est surprenant, il n'y aurait ni manquement de la part de l'établissement, ni harcèlement dirigé contre Samara. C'est pourtant ce que clame sa mère depuis le début, Jean-Wilfried Forquès.
Le rapport fait d'abord le portrait de Samara, une élève qui posait beaucoup de problèmes, souvent absente selon les inspecteurs. Samara qui passait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, est-il écrit, avec notamment la création de faux comptes. Le rapport exclut toute forme d'harcèlement à l'encontre de la collégienne. Par ailleurs, sur les accusations d'insultes à caractère religieux dénoncées par la mère de Samara, le rapport explique que le sujet communautaire n'est pas absent, mais pas prépondérant. Autre thème de l'enquête, l'action des équipes éducatives au collège. Elles ont donc fait ce qu'elles pouvaient faire, dit le rapport. Quant aux appels répétés que la mère dit avoir passé au collège pour qu'il protège sa fille, les inspecteurs affirment qu'ils n'ont pas trouvé trace de ces appels. Assiba, la maman de Samara, dénonce naturellement les conclusions de ce rapport.
L'histoire de ma fille, c'est comme si elle n'avait pas existé. C'est insupportable de limite d'avoir un statut de victime et de se faire passer pour maintenant une menteuse ou que ma fille, elle a rien vécu. Non, ça, c'est pas possible pour moi.
Les Les enseignants ont fait savoir qu'ils étaient satisfaits, un rapport qui, je les cite, « réhabilite le travail des équipes pédagogiques au quotidien ».
À Châteauroux, une marche blanche sera organisée samedi pour rendre hommage au jeune Mathis tué de plusieurs coups de couteau le week-end dernier. Il est 6h36 aux États-Unis. Intervention Manu Militari cette nuit à l'Université de Columbia à New York. La police a délogé les manifestants pro-palestiniens barricadés dans un bâtiment depuis 24 heures. Columbia, c'est l'épicentre du mouvement qui touche de nombreuses facs américaines. Un mouvement qui s'est exporté en France après Sciences Po Paris et la Sorbonne. De nouvelles universités ont été bloquées hier à Rennes, à Lyon, à Grenoble ou encore à Dijon, mais ces blocus ne sont pas sans conséquences pour les étudiants eux-mêmes, Cassandre Brault.
C'est dans un parc ou au café que ces étudiants ont passé leur après-midi hier.
On arrive et on ne sait pas trop si on a cours.
C'est vrai que cette semaine, on est un peu en période de partiel, donc ça décale certains.
Chaque jour, Micha met une heure pour venir à sa fac.
Je suis venue un peu pour rien, mais du coup, aujourd'hui, j'ai pas cours.
Même si elle se montre compréhensive avec les blocages, ils interviennent au mauvais moment.
Ça nous aide pas pour la fin d'année. Bah, du coup, on rate des cours, on est moins présent, il y a des TD qui sautent. Surtout à deux semaines des partiels, c'est un peu tendu.
Camille a attendu plus de 3 heures sans pouvoir rentrer dans sa fac, des cours qu'elle ne pourra pas rattraper.
C'est un peu agaçant de venir et de ne pas pouvoir rentrer à la fac. Bah, j'ai peur d'avoir un diplôme en carton à la fin. On ne sait pas s'ils sauront qu'on n'a pas eu tous ces cours-là.
L'étudiant ne comprend pas vraiment l'intérêt de ces blocages.
Est-ce que bloquer les lieux d'éducation, ça sert vraiment à quelque chose? Nous, ça nous empêche d'étudier. Bah, autant le faire à d'autres endroits où ça aura plus d'impact. Parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il en a à faire que la Sorbonne soit bloquée? Je ne vois pas trop ce que ça peut lui importer.
En attendant, les étudiants qui soutiennent la Palestine rejoindront aujourd'hui les cortèges du 1er mai pour continuer de se faire entendre.
Et puis le quintet, c'est à 15h15 sur l'hippodrome de Saint-Cloud.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 3, Sadak, l'outsider. C'est le numéro 2, Jojo Junior. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'est Jojo.
Et on les embrasse,
on
les
met,
Jojo.
On met tout sur Jojo Junior. Tout sur le 2.
6h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Record de flash pour les radars l'année dernière. Les amendes se comptent en milliards d'euros. Mais est-ce que ça sert encore à quelque chose? Quand on voit que la mortalité sur les routes augmente récemment, est-ce que c'est encore dissuasif? Est-ce que vous vous êtes fait choper? Est-ce que vous vous êtes fait prendre, flasher cette année? Et puis, où va l'argent? On posera aussi la question à Manu. Ces milliards récoltés avec les amendes des radars, ben, ils vont visiblement pas à la rénovation des routes. On est tous ensemble au 32-16. À tout de suite.
RMC Police Justice.
C'est l'heure de l'histoire du jour, repérée et racontée par le service police-justice d'RMC avec Guillaume Biais ce matin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Guillaume, vous revenez sur ce braquage de fourgon spectaculaire hier dans la banlieue de Lyon.
Oui, une attaque à main armée violente menée par un commando de 4 malfaiteurs encagoulés avec un important butin à la clé. Cela se passe à Rieux-la-Pape, juste au nord de Lyon, dans une zone d'activité où sont situées de nombreuses entreprises. Hier matin, un peu avant 8h30, un fourgon non blindé de la société Témis, spécialisée dans le transport de fonds et de marchandises de valeur, ce fourgon se retrouve soudainement coincé, pris en étau par 2 voitures, d'où sortent 4 malfaiteurs. Ils ont des armes longues, menacent les 2 convoyeurs, dont une femme qu'ils n'ont pas hésité à frapper. Elle a reçu un coup de poing et a été légèrement blessée. Les malfaiteurs s'emparent de plusieurs sacs contenant non pas des liasses de billets, mais plutôt des bijoux sortis d'un atelier de joaillerie implanté à cet endroit. Le montant du préjudice est très élevé. Il est estimé à 560 000 euros d'après le procureur de Lyon. Avant de s'enfuir, le commando a mis le feu au véhicule sur place, puis a rejoint l'autoroute A46 en abandonnant une autre de leurs voitures également incendiée.
Et Guillaume, c'est pas la première fois qu'il y a une attaque de ce genre dans la région de Lyon.
Non, effectivement, ces dernières années, des équipes de braqueurs ont sévi dans le secteur, rappellent nos confrères du Progrès. Dans la même ville, à Rieux-la-Pape, il y a 10 ans, une autre société avait été ciblée, un entrepôt de métaux précieux qui avait été attaqué en pleine matinée au camion bélier. Toujours à Rieux-la-Pape, en 2010, ce sont 200 kilos d'or en lingots qui avaient été volés dans une fonderie, laquelle avait déjà été braquée pile un an auparavant, avec 270 kilos d'or dérobés. Alors un contre-exemple tout de même, c'était il y a 2 mois à Villeurbanne. L'attaque d'une fabrique de bijoux, elle, a échoué. 3 suspects avaient été arrêtés en flagrant délit. Pour en revenir à ceux d'hier, eh bien, ils sont activement recherchés. L'enquête a été confiée aux policiers lyonnais spécialisés dans la lutte contre le grand banditisme.
Le récit de Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC. Merci Guillaume.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h41, excellent réveil à tous.
À vous de nous dire.
Ce matin, on prend la route et on prend la route avec vous, les travailleurs du 1er mai à 6h41. Alors, il y a ce rapport de la Cour des comptes qui était un peu passé sous les radars. Permettez-moi de faire cette petite blague du matin.
Allez, c'est le 1er mai.
C'est le 1er mai. J'espère que vous me pardonnerez. Ça passe.
Ouais, allez, on lâche les chevaux.
Effectivement, on va parler radars. On a appris hier que le montant des amendes des radars en France a battu un record. Plus de 2 milliards d'euros l'année dernière. Une hausse de 7% des recettes de radars. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a de plus en plus de radars, d'abord, surtout les radars chantiers, hein, c'est-à-dire ceux qui sont mobiles. On ne sait jamais vraiment s'ils flashent ou pas. Et puis, les radars sont globalement en meilleur état, malgré quelques dégradations. Bref, ça fonctionne mieux. Et puis, il y a peut-être aussi le fait qu'on s'y habitue. Avant d'aller au 32-16... Comment ?
Bah, le fait qu'on vous retire plus de points quand vous faites un petit excès de vitesse, vous êtes quand même flashé, vous payez quand même l'amende, mais vous n'avez pas le droit.
Alors ça, si je peux tempérer, c'est que depuis le 1er janvier dernier. Alors que là, les chiffres records.
Les chiffres, c'est l'an dernier, Manu.
Autant pour moi.
Non, les chiffres, Manu, c'est pas son truc.
On est le 1er mai.
Alors les chiffres, ça va, mais c'est les dates.
Oui. Ah voilà.
Je me permets de
mélanger les chiffres et les dates.
Ah voilà.
Manu, en vrai, ça va où cet argent ? C'est-à-dire 2 milliards d'euros de recettes quand on regarde. L'état des routes, on se dit, c'est pas raccord.
Les informations que je vais vous donner sont plus sûres que la remarque que je viens de
faire. Très bien, vous restez un homme fier.
On a à peu près un tiers qui va au financement de la sécurité routière, un autre tiers qui va à l'entretien des routes, et puis le dernier tiers, c'est pour les collectivités locales et pour l'État, et notamment pour rembourser la dette publique.
Rembourser la dette du public, et tiens, je signale, vous savez, demain matin, ça va être votre journée, Manu. Demain, je reçois Bruno Le Maire.
Wow. Mon Dieu. Parce qu'il n'arrête pas de déboucher le champagne depuis vendredi à Bercy.
C'est peut-être pour ça qu'il vient, ça fait.
Entre la France pas dégradée.
Je vais vous dire, j'espère qu'il n'écoute pas, parce que moi je me dis une des premières questions, c'est
les
de lui dire ça. C'est, vous étiez où quand ça n'allait pas? Mais par contre, depuis qu'il y a des bonnes nouvelles, alors là, évidemment, vous arrivez. Bref, on vous retrouve au 32-16, vous qui précisément, pour certains d'entre vous, êtes déjà sur les routes. Il y a Jean et il y a Amara qui sont avec nous. Bonjour Jean.
Bonjour.
Jean, vous êtes dans le coin du Calvados, c'est Amara qui est aussi avec nous, qui est en Haute-Garonne. Bonjour Amara.
Bonjour.
Amara, je vais commencer avec vous. Vous êtes vous-même routier, donc les routes vous connaissez bien, les radars aussi.
Oui.
Est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression d'abord que c'est plus difficile, que vous êtes souvent flashé? Est-ce que ça vous étonne ce record?
Ben non, justement, moi je suis complètement à l'opposé de cette manie de vouloir ne pas respecter les radars. Bon, ben voilà, il y a des règles, il faut les respecter tout simplement. Moi, je fais en moyenne 80 000 km par an, à peu près, hein, en tant que routier ou même en tant que chauffeur de car, parce que j'ai les deux casquettes.
Ouais.
Et ben, j'ai mes 12 points, c'est bizarre, hein. Je respecte, hein, voilà. Donc, moi je pense que ça ne doit même pas être imputé, mis à... pour pouvoir améliorer les routes et tout, il doit avoir un budget pour entretenir les routes normales et tout. Et les radars, normalement, ça doit rapporter zéro.
Oui, voilà. Non, en fait, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison, Amara. Dans un monde idéal, en fait, les radars seraient là pour nous inciter, mais on ne devrait même pas en avoir besoin, puisqu'on devrait, comme vous, respecter le code de la route.
Ce que les gens oublient, c'est que de rouler 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, les dégâts sont pas les mêmes, que ce soit matériel ou physique. C'est ça qu'il faut comprendre. La route, c'est important, c'est pas anodin. Non, on peut pas rouler. Ben non, moi on doit rouler à 90, mais non, je vais rouler à 70, c'est pas grave, j'ai une bonne voiture. Non, vous avez un régulateur, ben utilisez-les. Il y a trop de techniques et tout. On respecte. Moi, hier, je suis revenu de Conques avec des clients. Ouais. Et pourquoi j'ai roulé à 70 quand c'était limité à 70? Mais parce que je respecte mes clients, je respecte ma vie, je respecte les autres usagers de la route.
Non mais vous avez parfaitement raison, Amara. C'est vrai que ça fait du bien. Vous avez parfaitement raison. Si ces limitations, elles sont là, c'est aussi parce que on anticipe. On anticipe qu'il va y avoir un tournant, on anticipe
exactement.
Tout ça. Et c'est bien important. Non, c'est vrai. Il y a des moments où il faut dire les choses. Vous avez raison. Et donc vous payez pas d'amende et vous perdez pas de points. En plus,
moi, ça vaut la peine. Voilà. J'ai mis 12 points.
Ça vaut la peine. Attendez, parce que Amara, il y a aussi Jérémy qui vient de nous rejoindre, qui lui nous appelle de l'Isère et qui est chauffeur aussi. Jérémy, vous, pour le coup, vous vous êtes pris un radar, si je peux me permettre.
Oui, bonjour. Bonjour, Jérémy. J'ai pris un joli radar, ouais.
Ouais.
Et un bon radar chantier de 70 km/h au lieu de 110. Et ça n'a pas prévenu. Hein.
C'est ça. C'est-à-dire que, honnêtement, le radar chantier, ça ne prévient pas. C'est pas, vous voyez le panneau, vous baissez.
En plus, on était sur Waze. Ma femme était en train de me dire, bah tiens, il y a des bouchons sur Valence. Et là, il y a une sortie, si tu veux, tu peux raccourcir. Tu peux prendre ce trajet-là, on peut rejoindre l'autoroute. Et le temps que j'explique, oui, mais là, c'est un peu plus long. Et là, j'ai vu le radar, j'ai pilé. La chose un peu...
Oui, en plus, c'est dangereux de piler comme ça. Vous savez, Jérémy. Hein. Jérémy.
On a perdu Jérémy, mais c'est vrai que Jérémy, le radar chantier, c'est dur.
Ouais. Le radar chantier. Vous avez reçu donc l'amende, c'est combien?
Alors, j'ai eu 79 km/h, retenu 74. J'ai eu 45 € que j'ai payé tout de suite, sans retenu de points.
Ok.
Bon, vous avez limité la casse.
D'accord. Mais Jérémy, vous avez entendu Amara, si c'est marqué 70, il ne faut pas être à 110.
Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'était une sortie d'autoroute qui était en travaux, week-end. Et moi, ce qui me gêne, c'est que de 110, on passe à 70, ça ne prévient pas, et le radar est tout de suite là, quoi.
Non, mais je sais bien. C'est assez fourbe. Jérémy et Amara, on va en parler, hein, de ces radars et aussi même de l'aspect économique de la chose. Merci d'avoir posé le décor. Mais c'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui, on ne peut pas ne pas accueillir Jean qui voulait nous parler du PSG. Bonjour Jean.
Bonjour.
Comment ça va, Jean? Vous êtes où, vous?
Eh ben là, je suis à la barrière de péage de Beuzeville, sur la 13.
Sur la 13, enfin, à l'endroit où elle est ouverte, quoi.
Voilà, c'est ça, la petite partie ouverte.
La petite partie
ouverte. Et attention, il y a quelques radars sur la 13 aussi. Hein,
ouais, exactement. Oui, exactement. Jean, vous êtes de quel côté, PSG ou OM?
Alors moi, je suis rugbyman depuis 30 ans.
D'accord.
Mais par contre, quand il y a un club français qui est en Coupe d'Europe, peu importe le club, peu importe le sport, on soutient.
Voilà.
Je trouve ça assez puéril.
Charles n'est pas d'accord.
Si, je suis assez d'accord avec Jean.
Tout est dans le assez, oui. Jean, si je peux me permettre.
Comment je peux dire ça? Je suis supporter du PSG.
Moi, je vais vous dire simplement.
Ce soir, je suis à fond.
Charles, il ne soutiendra l'OM que si le PSG gagne ce soir. Voilà.
Voilà, ce sera moins douloureux, la victoire de l'OM demain soir. Je ne vais pas sauter sur mon canapé si l'OM marque, mais je serai content pour mes potes marseillais. Voilà, Jean.
Mais Charles, je suis entièrement comme toi, parce que je trouve ça assez puéril. La position qu'ont les Marseillais depuis des années n'existe plus au niveau national, n'existe plus au niveau européen.
Oh,
et ils se réjouissent juste de la défaite du PSG. Je trouve ça dommage.
À jamais les
Vraiment
premiers.
Dommage.
Oui, mais c'est le principe des rivalités aussi.
Il y a 31 ans, Manu.
Mais n'empêche.
N'empêche.
Et c'est quelqu'un qui était à Bruxelles pour la finale du PSG, pour la Coupe des Coupes, qui te le dit. Hein.
Mais oui, mais.
Moi, j'aime tout le monde.
J'avais 16 ans, mais déjà gamin, quand il y avait cette petite guerre entre Marseille et Saint-Etienne, et on disait, mais Saint-Etienne, c'était le siècle dernier, mais j'ai envie de te dire, Marseille, c'était au siècle dernier aussi. Il n'y a plus rien maintenant.
Nico, on se mouille un peu.
Ouais, Nico, bien silencieux.
Oh là là.
Ouais.
Nico,
rappelons-le, était à Barcelone pour le match retour en quart de finale.
Non, moi, je suis un fan absolu d'Mbappé, donc je suis encore pour le PSG cette année. L'année prochaine, je serai pour le Real.
Vous suivez les joueurs.
C'est Mbappé, maintenant.
Ah, c'est bien.
C'est encore pire. Je suis déçu aussi. Je suis très prêt. Oh non.
Jean, merci en tout cas. Vous voyez, vous avez bien lancé le débat, là. On est tous ensemble au 32-16, comme Jean, vous y passé. On vous accueille, il est 6h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, racontez-nous, traître Nicolas.
Et je vous raconte l'histoire du président de la Biélorussie qui conseille à ses athlètes de casser la gueule à leurs adversaires pendant les Jeux de Paris.
Et puis on n'avait pas osé vous en parler, Charles.
Et pourtant, malgré la pluie, malgré les radars, je vais vous donner envie de prendre la route en ce 1er mai.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h52. Merci d'avoir choisi RMC. On est ensemble jusqu'à 9h et voici le programme de la suite de la matinale. À 7h10, bientôt des travaux d'intérêt éducatif pour les jeunes, ceux âgés de 13 à 16 ans. Réponse du gouvernement après les émeutes de l'été dernier. Réponse à côté de la plaque, nous dira un éducateur des quartiers nord qui nous racontera aussi son quotidien avec les jeunes. À 7h20, le 7h20 d'Apolline Matin, Amélie.
On a enquêté sur le développement des parcs éoliens et les difficultés pour les riverains.
Et puis Manu?
Eh ben, vous recevez Bruno Le Maire demain, on prépare les cotillons avec les bons chiffres de croissance et d'inflation.
Et 7h40, il faut en finir avec la politique du tout radar sur nos routes. Alors qu'on voit que ça rapporte énormément, mais que ça ne fait pas autant baisser la mortalité routière qu'avant. Deux points de vue différents qui en débattront à 7h40 pour vous faire une idée. Et vous continuez d'ailleurs d'appeler au 32-16 pour participer au débat.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Nicolas Poincaré, tous les matins vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire du président biélorusse qui fait de nouveau tristement parler de lui.
Oui, Alexandre Loukachenko a hier encouragé les athlètes de son pays qui participeront aux Jeux Olympiques à Paris l'été prochain à casser la gueule de leurs adversaires. Casse-leur la gueule, a-t-il dit, pour montrer ta colère et pour montrer que tu es un vrai Biélorusse, autrement dit, pas une mauviette. Ce qui devrait provoquer la colère de ces athlètes, selon leur président, c'est que comme les Russes, les Biélorusses ne pourront pas participer aux Jeux Olympiques autrement que sous bannière neutre, ce qui veut dire qu'ils ne porteront pas les couleurs de leur pays, qu'en cas de victoire, l'hymne biélorusse ne sera pas joué, qu'ils ne participeront pas aux épreuves des sports collectifs et qu'ils ne participeront pas non plus au défilé sur la scène lors de la cérémonie d'ouverture. Décision du CIO prise parce que la Biélorussie a été complice de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine il y a 2 ans. En février 2022, les chars qui ont attaqué Kiev étaient partis de ce pays.
Ce président est un habitué des coups d'éclat.
Oui, Alexandre Loukachenko est généralement présenté comme le dernier dictateur communiste en Europe. Il est au pouvoir depuis 1994. Sa réélection en 2020 a été extrêmement contestée. Sa principale rivale avait dû fuir le pays de peur d'être arrêté, ce qui avait entraîné une vague de manifestations réprimées violemment. Le président s'était alors montré dans la rue avec un gilet pare-balles et une kalachnikov à la main. Il est aussi l'auteur d'un véritable kidnapping en plein vol. Un jeune opposant se trouvait à bord d'un vol Ryanair qui allait d'Athènes à Vilnius, un vol qui survolait la Biélorussie, et Loukachenko avait tout simplement envoyé des avions de chasse pour détourner cet avion civil et pour l'obliger à se poser à Minsk et donc arrêter l'opposant. Tout cela fait de lui un homme très isolé, il est interdit de séjourner en Europe et sous le coup de sanctions, il n'a en fait qu'un seul ami sur la scène internationale, devinez qui ? C'est son patron, Vladimir Poutine.
On n'avait pas osé. Je sais pas quoi dire. Je trouve ça tellement navrant. C'est triste. C'est triste et inquiétant. Honnêtement. 6h55, Charles.
RMC. Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Charles est là pour pour toujours nous remettre un petit sourire.
Mais oui, et pour vous inciter ce matin à faire le pont. Nous sommes le 1er mai et c'est parti pour un mois de mai gruyère, des jours fériés à gogo, de belles opportunités de s'offrir des week-ends très prolongés. Ce ne seront plus des ponts pour certains, mais des viaducs. Et ils ont raison, ce n'est pas moi, mais la science qui le dit. Partir en week-end prolongé serait plus bénéfique que prendre de longues vacances. Étude américaine qui démontre que prendre plusieurs pauses de quelques jours dans l'année sera plus efficace pour votre santé physique, pour votre santé mentale, que de longues vacances de 2 ou 3 semaines. Parce que s'arrêter 2 semaines d'un coup, ça peut s'avérer contre-productif. Dans cette étude, la moitié des sondés expliquent que s'ils s'absentent trop longtemps du boulot, ils craignent de cumuler du retard. Et une majorité culpabilise à l'idée de rajouter une charge de travail supplémentaire à leurs collègues qui sont restés bosser.
Ils culpabilisent.
Certains pensent à leurs collègues.
Il faut pas.
En tout cas, partir trop longtemps serait contre-productif. À l'inverse, les chercheurs notent tous les bénéfices des week-ends prolongés qu'ils appellent des mini-vacances. Ils permettent en fait d'avoir un boost de bonheur, de bien-être plusieurs fois par an, sans culpabiliser de s'absenter du boulot. Mais attention, les experts posent 2 conditions pour pleinement en profiter. Être capable de vraiment déconnecter du travail pendant 3-4 jours, ne pas regarder ses mails toutes les 5 minutes et ne pas trop se décaler côté rythme de sommeil, sinon la reprise peut s'avérer très douloureuse. C'est donc mon conseil. Voilà,
le réveil,
le réveil à 4 heures quand même, au cas où.
Mais en tout cas, bien sûr. Je le fais systématiquement le week-end.
Évidemment, c'est le bon réflexe.
Jour férié les ponts, réveil 4 heures.
Et joyeux pont à tous ceux qui s'apprêtent.
C'est merveilleux. Toutes ces études qui nous disent de ce qui serait bon pour nous, mais qu'on peut jamais faire, en fait.
C'est ça,
tu prends pas des grandes vacances, tu prends des petits week-ends tout le temps.
Les 8 heures de sommeil, très important.
Bien sûr. Et l'alimentation, n'en parlons pas.
À boire, pas fumer.
Allez, c'est le 1er mai.
On vous souhaite un excellent 1er mai à tous et on vous accompagne jusqu'à 9h. À tout de suite pour le Météo Journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.